Bon, c'est la 81e édition de la revue de la semaine, et c'est sans doute la dernière avant Noël, ok? Bon, allez, générique. Je vais évidemment parler de nouveau du mouvement des Gilets jaunes. Vous observez, si vous êtes observatrice ou observateur attentif, comment, dans des circonstances politiques particulières, le temps s'étire ou se compacte. Et là, nous sommes le jour mardi, je suis dans mon bureau à l'Assemblée nationale, et il faut se rappeler que mardi dernier, on était juste le lendemain de l'intervention du président de la République. Donc, le président de la République apportant sa réponse définitive, totale et globale au mouvement des Gilets jaunes, c'était il y a 8 jours. Le mardi soir, il y a une semaine, c'était la tuerie à Strasbourg. Et évidemment, c'était une commotion terrible pour le pays. Je pense qu'il en reste naturellement bien des traces, surtout à Strasbourg même. Mais tout le monde a pu voir comment ça se passait. Derrière cet événement, un certain nombre de gens ont essayé de faire de la récupération politicienne, comme la garde des Sceaux, Madame Belloubet, qui a dit aussitôt bon, maintenant, il faut arrêter tout, il faut arrêter le mouvement parce que c'est trop grave, et puis de toute façon, ben, bref. Et en fait, c'est pas ça qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est plutôt que l'ambiance particulière qui a entouré l'attentat à Strasbourg a créé une espèce d'effet de regroupement dans le pays qui a absolument pas joué contre le mouvement des Gilets jaunes, mais plutôt a fait disparaître l'impact du propos présidentiel. Alors, le samedi, on a eu droit au couplet habituel, le mouvement s'essouffle, il reflue, etc., etc. C'est pas du tout ce que moi je sais, pas du tout. Bien sûr, à Paris, ce qui se voyait était moins puissant que les 2 week-ends précédents. Mais il y a plein de raisons. D'abord, c'est qu'il faisait un froid de canard, mais c'est surtout que les gens n'ont pas pu monter comme ça 3, 4 semaines de suite. Et puis que Paris était extraordinairement quadrillé. Hein, il faut se rendre compte que c'était très difficile d'arriver à se regrouper dans Paris, et quand on arrive en bus, comme c'est le cas pour les délégations des régions, bah, le bus il rentre même pas. J'avais mes amis du Jura, là, la semaine d'avant, bah, ces pauvres, ils n'ont pas pu entrer dans Paris, tout simplement. Alors, donc ce n'est pas vrai. Le mouvement n'a pas reflué. Peut-être que sa face apparente a reflué, mais la motivation, non. Et d'ailleurs, le soutien dans le pays reste le même. À un petit quelque chose près, hein. Le même. Et puis le nombre des barrages restait le même. Et puis dans les villes en région, il y a eu de très puissantes mobilisations supérieures cette semaine à celles d'avant. Même si on observe qu'il y a eu aussi un changement à l'intérieur des gens qui participent à l'action de terrain. Bon, un changement qui pousse plutôt vers, on a l'impression que les gens qu'il y a là sont plus politisés que ceux qu'on a connus au début. Mais c'est peut-être les mêmes qu'au début, sauf qu'ils se sont politisés en cours de route, hein, parce qu'ils ont appris beaucoup de choses, parce qu'ils ont compris beaucoup de choses. Alors, nous devons traiter et comprendre ce mouvement pour ce qu'il est, pas pour ce qu'on voudrait qu'il soit. Il ne rentre dans aucune case. C'est bien ça qui énerve tous les observateurs et tous les grands analystes. Ça ne rentre dans aucune case parce que c'est un phénomène de type nouveau. C'est une révolution citoyenne qui met en mouvement le peuple et pas précisément telle ou telle catégorie sociale ou professionnelle. Donc, ou évidemment telle ou telle catégorie politisée. Hein. Bon, alors ils passent leur temps à essayer de savoir combien il y a de Front National, combien il y a de France Insoumise, combien il y a de gauche, combien il y a de droite, mais tout ça sert à rien, parce que ça ne correspond pas aux raisons pour lesquelles les gens se mettent en mouvement et leur façon de se regrouper. Donc, la puissance du mouvement, elle est dans la détermination des gens qui sont là. Et dans le fait, cette détermination, on le voit au fait que les revendications s'affinent à mesure que le temps passe. Parce que l'affaire de l'annulation de la surtaxe, ça a été obtenu. Et maintenant, on est dans autre chose qui touche à l'essentiel, c'est-à-dire, mais comment sont prises les décisions dans ce pays? Et l'attention publique collective se concentre sur le référendum d'initiative citoyenne, ce qui est une très bonne chose. Je le dis pas seulement parce que c'était dans le programme l'avenir en commun, c'est pas mon sujet. C'est une très bonne chose parce que quand une révolution citoyenne se met en mouvement, elle passe par une première phase qui est, on appelle destituant, c'est un mot un peu précieux, hein, pour dire bon allez hop, tout le monde dehors, vous avez assez vu, ça suffit ci, ça suffit ça, alors Ils en ont après, évidemment, les représentants politiques, qui sont accusés de confisquer la parole, ce qui est quand même vrai. Ils en ont surtout après les journalistes, qui sont détestés encore plus que les responsables politiques, mais aussi toutes les institutions, toutes les autorités, tous les pouvoirs sont remis en cause. Mais pas, c'est pas du nihilisme, ça. Hein. C'est pas des gens qui veulent tout détruire. C'est des gens qui se mettent à réfléchir à tout en même temps. Et qui s'aperçoivent qu'il y a une énorme machine qui est là, les trois quarts du temps, pour les domestiquer, les maintenir dans le silence, dans la division, dans la peur, dans la résignation. Et tout d'un coup, l'énormité du procédé apparaît aux yeux de tout le monde. Des gens qui ne sont jamais occupés de politique, d'aucune façon, hein, regardez ça de loin, ils découvrent ce que c'est que le mensonge médiatique permanent. Ils découvrent ce que les cheminots ont découvert il y a quelques mois, hein, quand ils ont vu que tout le monde leur tapait dessus, expliquait que c'était des privilégiés, etc. Bon, et là, ils découvrent la même chose, le montage, le bidonnage. Alors, il faut dire que ça atteint des sommets, hein, cette fois-ci. Aussi bien ceux que je peux voir, moi, comme d'habitude, parce que je suis toujours au premier servi pour ce genre de choses. Bon, je participe à une émission de radio et on me présente un président des commerçants, évidemment, qui va me tirer des larmes des yeux, parce qu'il explique ce qui est vrai, que du fait du mouvement, il y a moins de clients, et donc je suis un irresponsable parce que j'appelle à la poursuite du mouvement. Il faut que je répète pour la 10e fois que j'appelle à rien du tout, que le mouvement, il décide tout seul, et que moi, j'ai fait un choix politique avec mes amis, qui est d'accompagner le mouvement et de le soutenir. Voilà. Bon. Donc, on le soutient jusqu'à ce qu'on ne soit plus d'accord pour le faire, et je ne vois pas pourquoi on ne serait plus d'accord pour le faire. Mais ce qui est fort dans l'histoire, c'est que le gars en question, le président des commerçants qui vient me traiter, moi, d'irresponsable, lui, c'est un menteur. Parce qu'il ne dit pas qu'il est le responsable, le référent du groupe La République En Marche, là où il est. Et que ce gars a été candidat à l'élection législative macroniste. Mais le pire de l'histoire, c'est pas que le gars le dise pas, c'est que le journaliste qui le sait, et qui m'a dit après, oui, je le savais, hein, lui, il le dit pas non plus, c'est-à-dire qu'il manipule ses auditeurs. Alors vous direz, bon, ben ça, on a l'habitude maintenant, parce que moi, on me l'a tellement fait que les gens ont fini par le voir. Mais le coup d'effacer un bout de la pancarte, Macron dégage, pour enlever le mot dégage, c'est quand même pas rien. Le mot dégage dans cette affaire, il a une portée, une contamination que tout le monde connaît, parce que dégage, c'est le fondement du dégagisme. Il n'y a pas besoin d'un mec pour comprendre ça. En plus, celui qui efface ça, on peut dire qu'il est bête comme ses pieds, parce que le gars qui porte cette pancarte, tout le monde le connaît à Paris. C'est un homme qui est très engagé, c'est un ancien insti, je crois. Bon, il est très grand, il a des très grands bras. Et il porte toujours d'immenses pancartes où il y a un message dessus qui est toujours très politique et qui résume l'ambiance de la manif. Donc croire que lui ou les autres qui le connaissent ne s'en rendraient pas compte, c'est vraiment n'être jamais sorti de son bureau pour aller voir de près une manif. Hein. C'est ça que ça veut dire surtout. Parce que tout le monde sait qui est cet homme, connaît ses pancartes, et puis ceux qui ont vu la pancarte dans la rue, ben, ils s'en rappellent, parce qu'à chaque fois on dit « Tiens, qu'est-ce qu'il a mis sur la pancarte ?» C'est comme ça dans les manifs parisiennes, voilà. Donc on voit l'énormité de la manipulation. Et dès comme ça, il y en a maintenant quasiment tous les jours et à tout bout de champ. Donc qu'est-ce qu'on doit dire de ce mouvement? Il a produit des résultats. D'abord à l'annulation de la hausse des carburants, donc c'est déjà un premier résultat. Et puis un certain nombre d'autres choses qui vont sans doute profiter au portefeuille de l'un, de l'autre, etc. Donc, mais c'est pas une raison pour autant, ça n'a pas suffi à convaincre les Gilets jaunes. C'est pas moi qui le dis, c'est pas moi, c'est eux, parce que sinon ils auraient dit, ben on arrête. Donc ça veut dire que le processus continue à travailler la société en profondeur. Et c'est à ce moment que se conjuguent deux choses, l'autorité de la parole présidentielle arrive aux alentours de zéro, parce que d'ailleurs on se rappelle même plus ce qu'il a dit au juste pendant cette interview, qui était quand même solennelle et qui date d'il y a à peine 8 jours. Hein. Primo, et deuxièmement, l'outil de l'autorité de l'État, quand il n'y a plus le consentement à l'autorité, c'est toutes les forces de sécurité et de maintien de l'ordre. Or justement, cela aussi, ils se fâchent. Ils annoncent une journée de grève pour le mercredi, et on leur dit « Ah bah vous donnez une prime !» et ben ils disent « Bah non, bah la prime ça suffit pas !» Et c'est la base qui dit « Bah non, déjà vous nous devez... des sommes considérables en heures supplémentaires, et puis nous on veut une augmentation de salaire, etc. etc. » C'est-à-dire que le principal organe sur lequel repose l'autorité de l'État à cet instant, et du gouvernement, est lui-même en rébellion contre ceux qui donnent des ordres. Normalement, la conjonction des deux, vous allez voir, hein, ça va donner des choses qui vont être historiquement et politiquement très intéressantes. Donc, chacun fait bien comme il veut. Mais les commentateurs qui ont déjà tourné la page, ouf, ça y est, c'est fini, ça y est, on pourra parler d'autre chose. Alors, ouf, 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 pour eux, c'est ça, ouf, c'est fini. Non, c'est pas fini, c'est ça que vous n'avez pas compris. Parce qu'un processus de cette nature, il ne suit pas les formes traditionnelles. C'est pas comme d'habitude, avec le cortège syndical, à la fin de la journée, le mouvement s'arrête, puis le surlendemain, on négocie, et puis, non, ça se passe pas comme ça. C'est appuyé sur une base spontanée, extrêmement autonome, et jalouse de cette autonomie. Par exemple, j'ai vu le compte-rendu d'une grande assemblée générale de Gilets jaunes à Toulouse, ils étaient un millier dans cette salle, ils ont pris toutes sortes de décisions, mais il y en a une qui m'a frappé, c'est qu'ils ont décidé qu'ils n'auraient pas de délégués, qu'ils n'auraient pas de représentants, de porte-parole. Bon, quand on est 1000 et qu'on décide un truc pareil, c'est jamais vous dire qu'il faut que c'est une certaine force, hein, pour que ça s'impose. Donc, si c'est vrai là, et je pourrais citer des exemples d'autres villes dans le pays où il se passe des choses de cette nature, c'est que c'est vrai un peu partout. Donc, moi je continue à regarder ce mouvement en me disant qu'il va produire d'autres effets politiques. Alors évidemment, je pense, et j'espère aussi pour eux, qu'il y aura au moins la pause soir de Noël, quoi. Hein. Parce que, bon, souvent, c'est fête de famille et tout, encore que moi, j'ai pas d'avis sur le sujet. Hein. Si les gens ont l'intention de continuer pendant Noël et Nouvel An, pourquoi pas, après tout. C'est une façon comme une autre de le célébrer entre gens qui ont des choses en commun. Mais ce qui est certain, c'est que quand le mois de janvier va arriver, les gens vont faire leur compte et vont s'apercevoir que les grandes promesses de Macron ne concernent que très peu de monde, pour finir, que ça coûte horriblement cher sans qu'on sache vraiment pourquoi, ni à quoi ça sert, et puis va arriver à la fin du mois de janvier l'impôt à la source. Vous m'avez déjà entendu dans cette émission dire pourquoi je pensais que l'impôt à la source est une bêtise, mais c'est surtout que l'impôt à la source, bah, il va faire que tout le monde va avoir fin janvier, un moment qui est quand même pas celui du plus grand confort financier, hein, va avoir une baisse de son salaire net, parce que la partie qui est partie pour l'impôt est partie pour l'impôt. Donc, mes amis, le mois de janvier va être animé. Alors, nous, on a une décision à prendre, nous autres, les insoumis, ici, à l'Assemblée nationale, c'est qu'est-ce qu'on fait pour le vote. Alors, la décision qu'on a prise, c'est que le vote sur les mesures de Macron, hein, on a décidé qu'on votait, qu'on allait s'abstenir à l'intérieur du texte de loi sur certains sujets, mais qu'on allait voter contre le texte dans son ensemble. Pourquoi ? D'abord par loyauté à l'égard du mouvement des Gilets jaunes. Si les Gilets jaunes avaient dit « Ah ben on est content, avec ce qu'a dit Monsieur Macron, ok, top là, on arrête. » C'est pas ça qui s'est passé. Les gens ont dit « C'est pas suffisant, on continue. » Et il y a eu le mouvement samedi dernier. Par conséquent, on va pas nous on va pas dire le contraire des Gilets jaunes. On va pas dire « Écoutez, ils disent que ça suffit pas, mais nous ici on vote avec vous parce qu'on pense que c'est suffisant. » Donc, disons, première raison, par fidélité et loyauté à l'égard du mouvement, on vote contre. Deuxième raison, c'est qu'on n'a pas l'intention, nous, un seul jour de notre vie, d'aller voter des textes dans lesquels on décide que les cotisations sociales ne sont plus payées et que c'est l'impôt qui va payer les augmentations ou les primes et toutes les choses que Macron a promis. Parce que j'espère que vous avez maintenant bien compris que ce n'est pas le SMIC qui augmente. D'accord, c'est la prime d'activité. Le SMIC, il augmentera de 1,08, là, ou je ne sais pas combien, là. Mais ce qui va faire le gros des 100 euros qui ont été promis, c'est une prime, c'est-à-dire qu'il va être payé par les impôts. Alors, quand vous les entendez répéter sur tous les tons, « Oui, nous voulons que le travail paie », ce sont des menteurs, parce qu'il ne s'agit pas de mieux payer le travail. Qui peut mieux payer le travail ? L'employeur, en répartissant différemment les fruits de la richesse produite quand on a une activité, quand l'entreprise a une activité, d'accord ? Donc ils mentent, et seulement la moitié des gens qui sont payés au SMIC vont avoir accès à cette prime, c'est quand même pas rien, c'est la moitié seulement, hein. Et puis évidemment, pourquoi ? Ben parce que cette prime, elle dépend aussi des revenus de votre conjoint, donc c'est un piège cette histoire. Donc nous, pas question qu'on participe à valider un processus de cette nature, qui est un processus mensonger, inégalitaire, et qui, une fois de plus, est une manière de protéger les puissants de leurs devoirs. Bon, j'entends déjà ce qu'ils vont répéter partout. « Ah, la France insoumise n'a pas voulu que vous gagniez 100 euros de plus. Ah, la France insoumise n'a pas voulu que la CSG soit baissée pour ceux qui gagnent quand une retraite de moins de 2000 euros. » Bon, bref, je vous passe toute la technique autour de ces questions. Il va y avoir le débat à l'Assemblée, si ça vous intéresse. Vous pouvez le suivre sur LCP. Donc c'est ça qu'ils vont dire. Ils vont dire, c'est insupportable, vous n'avez pas voté les augmentations, ben non, on n'a pas voté vos pièges, on n'a pas voté votre truande, et d'ailleurs, vous n'avez pas besoin de nous pour le faire passer. Donc, ne nous demandez pas, non seulement de faire passer quelque chose qui n'est pas satisfaisant, mais en plus, nous, de capituler sur nos principes. Le salaire est un salaire, et ce n'est pas une prime qui remplace un salaire. D'accord ? Voilà, je vais vous expliquer ce qui va se produire pour les quelques heures que nous avons devant nous, mais je vous l'ai dit au début, c'est comme ça, dans une période dense socialement, dans une période de haute activité politique populaire, le temps se compacte et il est très difficile de faire des plans à plus de 8 jours, ça n'existe pas. Et maintenant, je vais aborder un autre sujet, parce que bon, je pense que ceux qui regardent cette revue de la semaine, en général, ils sont plutôt politisés, enfin je veux dire, ils suivent ce qui se passe. Vous avez vu comment le pénisme médiatique est de retour, c'est-à-dire qu'ils sont tous là à dire « Ah oui, d'abord au début c'était les gilets jaunes, c'était tous des gens d'extrême droite ». Bah, il y en avait, oui, mais il n'y a pas que ça. Les gilets jaunes, c'était très large. Alors, au début, ils étaient tous d'extrême droite. Après, ils étaient tous contre l'écologie. Ils avaient qu'à rouler moins au lieu de faire des histoires. Bon, comme ça n'a pas marché non plus, à un moment donné, on a commencé à avoir, ce sont tous des violents, c'est-à-dire que tous les gilets jaunes ne rêvaient que d'une chose, tout casser autour d'eux, mettre le feu partout et piller les boutiques sur les Champs-Élysées. Bon, comme ça n'a pas non plus marché tellement, parce que personne ne le croit, tout le monde sait qu'il y a des exaltés, des excités et des pillards, on le sait, mais c'est pas le mouvement des gilets jaunes. Alors après, ils sont passés à autre chose, ça a failli, c'était du genre, oui, ben, ils n'ont aucune sensibilité, à cause d'eux, on ne peut pas s'occuper des terroristes, parce que pendant qu'on court derrière les lycéens ou les ronds-points, on ne peut pas courir derrière les bandits. Ça non plus, ça n'a pas trop marché. Alors, maintenant, retour à la case départ, c'est tout ça ne profite qu'à Madame Le Pen. Alors, bon, jusqu'au ridicule, alors moi, on me dit, en faisant mine semblant d'être c'est très douloureux, dire « mais ça vous profite pas ?» Bon, alors premièrement, c'est pas mon but dans la vie. Qu'un mouvement social me profite, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est qu'est-ce qui change dans la vie du pays, comment les rapports de force entre les tout-puissants et les pauvres changent. C'est ça qui nous intéresse, c'est ça qui nous motive. Et donc, quand on accompagne et qu'on appuie le mouvement des Insoumis, bon, on est d'abord motivé par ça. Et après, il faut le prouver que ça, comme ils disent, profite pas. Parce que moi, ce que je vois dans les sondages, c'est le contraire. C'est que après tout ce qu'ils m'ont fait, toutes les misères qu'ils m'ont fait avec les perquisitions et le reste, après toutes les... quand même ma situation sondagère s'améliore. Ici, 8 points de plus, là, 2 points de plus, là, 1 point de plus, bref. Pour autant qu'on y croit, eux, ils disent qu'ils y croient, puisqu'ils en parlent tout le temps. Eh bien, ce n'est pas vrai qu'il y a une espèce de surdité totale du mouvement des Gilets jaunes à notre égard. C'est pas vrai. Ni plus ni moins que les autres. C'est-à-dire que les Gilets jaunes écoutent tout le monde. C'est normal, c'est le peuple. Ils écoutent, ils se méfient de tout le monde. Et aussi de moi. Mais je vois quand même des choses qui font chaud au cœur. Quand Adrien Quatennens va sur BFM chez Monsieur Bourdin, il bat le record historique de l'audimat depuis la rentrée. Quand Mathilde Panot pose une question d'actualité au gouvernement et qui est une question bien sentie, après l'intervention du chef de l'État, elle dit « le président a parlé, il a menti ». Bon, ils hurlaient tous comme des fous dans l'hémicycle, mais en attendant, cette vidéo-là, elle a fait 7 millions de vues. Donc on voit qu'il y a une écoute, je ne vous parle pas des autres, c'est pas pour dire que les autres c'est pas important, ni que moi-même je me suis aussi exprimé, c'est pas le sujet. C'est pour dire qu'il y a une écoute à l'égard de ce que disent les insoumis. Et je trouve que c'est une bonne chose, parce que comme notre attitude est respectueuse du mouvement, la circulation des idées, elle se fait bien, elle se passe bien. Alors donc maintenant, mon point de départ c'était le pénisme médiatique et Madame Le Pen qui ferait des progrès formidables dans les sondages. Alors déjà, c'est possible, que l'affection que les gens lui portent augmente tous les jours un peu, pourquoi pas. Mais ce qui me rend sceptique, c'est que le reste des mêmes sondages n'est pas crédible. Par exemple, dans le journal macroniste, le journal du dimanche, ça paraît tous les dimanches, ce journal-là, et en général, ça fait la pub du gouvernement, avec des beaux dessins et tout ça. Bon. Et là, ils avaient un sondage. Alors, dans le sondage, la cote de popularité du président coule, le premier ministre coule, ça, ils peuvent pas faire autrement. Mais surprise, si on votait aux élections présidentielles dimanche prochain, dans le JDD, qu'est-ce qu'on apprend? C'est que M. Macron ferait mieux que la dernière fois. Alors, écoutez, bon, c'est pas être mauvais esprit, mais quand même, tout le monde comprend que c'est pas possible. Après 5 semaines d'un bazar pareil, après que le gars soit fait toller une ou deux fois, que dans toutes les rues du pays, il y a des gens qui crient « Macron démission », c'est pas possible qu'il va mieux que la dernière fois. C'est vraiment prendre les gens pour des imbéciles. Alors, si on les prend pour des imbéciles sur le résultat dans le sondage de M. Macron, que vaut le reste du sondage? Vraisemblablement pas grand-chose. Donc, il ne faut pas s'en faire un monde, mais ce qui est intéressant, c'est de voir le procédé pour dire, au fond, il n'y a que Mme Le Pen, et donc vous avez le choix. Si vous n'êtes pas pour M. Macron, vous êtes donc forcément pour Mme Le Pen. Ben non, c'est pas vrai, il y a des tas de gens, il y a des gens qui sont pour Mme Le Pen, je le sais bien, je le regrette assez, je préférerais qu'ils soient pour moi. Mais bon, mais c'est pas le cœur du sujet pour nous, mais pour eux, si, c'est ou l'un ou l'autre, ou Macron, ou alors, bon, bref, vous avez compris. Mais tout ça, c'est toujours la même chose. Ça suppose que les gens sont stupides, que les gens sont au courant de rien, qu'ils s'intéressent à rien, qu'ils comprennent rien, qu'ils sont des animaux. Écoutez-moi, dites-moi voir pourquoi des gens qui réclament partout l'augmentation du SMIC vont dire qu'ils sont pour Mme Le Pen, fût-ce dans un sondage, alors même que Mme Le Pen leur a dit franchement qu'elle était contre l'augmentation du SMIC, c'est-à-dire contre l'augmentation des salaires. Elle a dit « ça détruit de l'emploi ». Elle raconte n'importe quoi, c'est pas vrai. Évidemment, plus les payes sont bonnes, plus il y a de payes, et puis plus les gens, eh ben, ils achètent les choses dont ils ont besoin. Donc ça a toujours, la consommation populaire a toujours relancé l'activité de l'économie. On pense qu'on veut après de cette relance, mais en attendant, c'est comme ça que ça se passe. Mais elle a dit « non, je suis contre l'augmentation du SMIC ». Bon, ben voilà. Pourquoi croire que les gens l'entendent pas, qu'ils ne s'en rendraient pas compte? Bon, de même, expliquez-moi voir pourquoi, quand les gens se battent pour leur dignité, quand ils se battent pour être reconnus, quand ils se battent pour avoir des bonnes payes, hommes et femmes, pourquoi ils vont approuver une femme comme Mme Le Pen, qui est l'amie, qui s'en est assez réclamée, qui a dit que c'était formidable, que leurs idées avançaient en Europe et que bientôt ça serait leur tour? Ben parfait, regardons ce qu'ils font. M. Orban en Hongrie, qui est le grand ami de Mme Le Pen, alors celui-là, il a inventé un truc absolument inouï. C'est que, par une loi, il a rendu possible le fait que les gens fassent 2 mois de travail, l'équivalent de 2 mois de travail en heures supplémentaires. D'accord ? C'est-à-dire, les employeurs reçoivent un quota équivalent à 2 mois de travail, comme si c'était une année de 14 mois, par employé. Mais vous allez voir la chose, c'est que le gars ou la fille qui fait ses deux mois de travail supplémentaire, il va pas être payé tout de suite. Vous le croyez, un truc pareil? Eh ben, il sera payé dans un délai de 3 ans. C'est-à-dire que c'est maintenant que vous faites les heures sup, puis on vous dit, t'inquiète pas, dans 3 ans, je te paye. Dans 3 ans, les amis. Voilà la trouvaille de M. Orban. C'est le choc de compétitivité. Les gens travaillent, puis ils sont pas payés. Et on les paye quand on a le temps, 3 ans après. Voilà l'exemple de grand ami de Mme Le Pen. Est-ce que vous avez entendu Mme Le Pen dire « Ah ben non, là, moi je mets ça à distance, je suis pas d'accord, je suis pas d'accord avec ça ». Non, elle est tout à fait d'accord, elle trouve ça génial. Et la même chose s'est produite chez son autre grand ami, qu'est l'extrême droite autrichienne. Alors ceux-là, eux aussi, ils manquent pas d'idées, ils ont trouvé une idée superbe, c'est la journée de travail de 12 heures. On revient, en France, les 12 heures de travail, c'était avant 1906, c'est-à-dire avant qu'ait été créé le code du travail. Bon, 12 heures. Mais attention, vous pourriez dire, ah ben quand même, malgré tout, ça fait des heures supplémentaires. Ben non, c'est 12 heures sans heures supplémentaires. Voilà, 12 heures tous les jours et c'est pas d'heures supplémentaires. Ça aussi, c'est le grand ami de Mme Le Pen, la direction politique en Autriche. Donc moi je me dis, les gens doivent être au courant, ils se renseignent, ils regardent un peu, ils vont pas se donner un mal de chien pour se débarrasser d'un Macron qui leur serre la vis pour aller trouver quelqu'un qui leur serre la gorge. Bon, c'est faut quand même les gens sont pas bêtes. Donc moi je suis confiant. Je dis que non, j'ai aucune raison de tourner le dos à ce mouvement parce que ce qui compte c'est les mots d'ordre qu'il met à l'ordre du jour, c'est la manière avec laquelle il se conduit lui-même, je trouve qu'il se conduit bien et que les mots d'ordre me conviennent parce que c'est la même chose que ce qu'il y a dans le programme des Insoumis. Donc il y a une compréhension mutuelle qui se fait assez naturellement, d'ailleurs il n'y a pas besoin d'en rajouter, pour que ça se fasse, et j'espère que sur les barrages, les gens trouvent qu'on fait bien le boulot ici, à l'Assemblée nationale, que ce qu'on fait correspond à ce qu'ils espéraient que fassent beaucoup d'autres. Alors, beaucoup d'autres, il ne reste plus grand monde, il faut dire, parce que la droite, là, ils ont fait beaucoup de la samba, là, mais maintenant, bon, ils ont pas voté la censure contre le gouvernement, et ils vont voter la loi de M. Macron Vous savez, avec la prime d'activité, la réduction de la CSG, bref, tout ce qui a été dans le discours de la semaine dernière. Donc la droite qui faisait, la droite, les Républicains, hein, qui faisait l'opposition de droite, ils sont toujours de droite, mais ils font plus d'opposition, voilà. Alors, il faut que vous le sachiez, parce que sinon, vous comprenez pas tout très bien comment tout le monde est en train de se repositionner. C'est-à-dire que les puissants et les importants, ils ont la trouille du mouvement, et c'est la raison pour laquelle la représentation politique de la droite a laissé tomber les cuillères et les couteaux de l'opposition pour passer à un accompagnement de la majorité de M. Macron. Bon, alors cette semaine, c'est une semaine noire pour l'industrie, parce que, il y a l'affaire Ford, qui est un scandale absolu. Ford qui a touché des millions tous les ans de l'État et du gouvernement sous forme de crédit impôt, compétitivité, emploi, sous forme de ceci, sous forme de cela. Bon, décide qu'ils ferment et s'en vont ailleurs parce que les ouvriers coûtent moins cher. Bon, c'est très pénible à voir, à constater. Le gouvernement jette de grosses larmes et il s'était mobilisé et trouvé un repreneur dans le coin, hein. Et voilà que Ford dit, ah ben non, nous on vend pas. On vend pas, non, on ferme la boîte. Alors ça laisse des centaines de gens sur le carreau, sans aucune raison, puisqu'il y a un repreneur. Donc la question qui se pose dans ce cas-là, c'est pourquoi alors qu'il y a un repreneur, un gars peut décider de tout fermer. Qu'il ait un droit de propriété, je veux dire, qu'il ait le droit de dire, ah ben c'est mes sous, c'est mes machines, c'est moi qui ai payé tout ça, vous pouvez pas me le prendre. Principe qui se discute, mais on peut comprendre. Bon, mais là il s'agit pas de ça. C'est eux qui vont détruire l'outil de travail. C'est eux qui vont le détruire, c'est personne d'autre. Notamment en renvoyant à la maison des centaines d'employés qui, eux, savent faire tourner la boîte. Donc, normalement, on devrait récupérer les sous qu'on lui a donnés, parce qu'on ne lui a pas donné pour se faire plaisir, hein, et qu'on peut considérer que c'est pas, en plus de tout ce qu'on lui a donné, maintenant, la société doit prendre sur son dos le paiement des indemnités de chômage, la réparation du site, les problèmes de santé, de futur, enfin bref, tout ce que vous imaginez après un licenciement. Donc, on récupère nos sous, et puis, deuxièmement, le gouvernement devrait nationaliser provisoirement, c'est-à-dire nationaliser le temps de revendre à quelqu'un d'autre pour fabriquer des voitures ou je ne sais quoi, les pièces qui sont fabriquées à cet endroit-là, parce que c'est pas toute la voiture qui est faite. Bon, ça c'est la bonne décision, mais évidemment c'est celle que va pas prendre le gouvernement, qui continue à faire des phrases, mais rien d'autre que des phrases. Et cette nationalisation temporaire, elle correspond à une méthode qu'on avait déjà proposée dans le passé, à propos des hauts fourneaux, vous vous rappelez, on avait dit, puisque M. Mittal les ferme, nous on va nationaliser temporairement, on verra ce qu'on en fait, après à qui on le revend ou dans quelles conditions on a besoin de produire des aciers fins en France. Bon, c'est pas ça qui s'est produit, et c'était Montebourg qui proposait à l'époque la nationalisation temporaire. Et le premier ministre socialiste avait dit, ah non, pas question de tout ça, on va faire confiance à M. Mittal, il l'avait reçu, l'autre avait promis tout ce qu'on voulait, et naturellement on n'a rien fait derrière. Et maintenant, il s'agit de fermer. Donc voilà encore des puissantes unités de production qui sont nécessaires pour produire l'acier dont on a besoin pour tout le reste des productions industrielles du pays qui va se finir. Là aussi, il faudrait une nationalisation temporaire pour regarder sous cocon l'instrument de production et, le cas échéant, le remettre en route quand il le faudrait. Bref, voilà deux exemples qui montrent comment l'industrie est défaite morceau par morceau. Et que pendant ce temps-là, les gouvernements regardent et ne font rien. Et voilà une attitude qui va coûter cher à notre pays, parce que l'industrie, c'est le point de départ de tout le reste des cycles de la production. Hein. Ce qui se passe dans l'industrie produit les choses dont on a besoin, la base des choses dont on a besoin. Et savoir que aujourd'hui l'industrie ne représente plus que 12% de la valeur totale de ce qui se crée dans ce pays, c'est une mauvaise nouvelle, et c'est un indicateur qui est très mauvais. Alors, je pense que vous voyez à cette occasion encore pourquoi nous avions raison de proposer deux choses. D'abord, le mécanisme de la nationalisation temporaire, et puis sinon un autre mécanisme que le gouvernement socialiste n'a pas voulu faire, et c'était Hamon qui était à l'époque le ministre chargé de ce sujet-là, c'est que quand une boîte liquide, si les ouvriers décident de la garder eux-mêmes en coopérative, ils ont un droit de préemption sur l'usine. On pourrait dire par exemple que chez Ford, les gens diraient, nous on va faire une coopérative de production, et ils peuvent parfaitement, à partir du moment où ils en deviennent propriétaires, soit effectivement en être les propriétaires, soit eux-mêmes prendre la décision de vendre l'outil de travail à quelqu'un d'autre. Et ce droit dont il était beaucoup question s'est transformé sous l'action du PS, et en l'occurrence du ministre Hamon, en obligation d'information. C'est-à-dire, quand le gars vend, ben, il est obligé de prévenir les ouvriers. Ça leur fait une belle jambe. Hein. Et c'était plus du tout le droit de préemption sur une entreprise. Je vous dis tout ça pour que vous y réfléchissiez et que quand vous suivez l'actualité, ben, vous vous rappeliez qui fait quoi et qui a fait quoi dans toutes ces années décisives. Bon, alors cette affaire de Florange, vous vous souvenez qu'il y avait des procédés qui avaient été mis au point pour permettre de produire un acier propre, c'est-à-dire un acier qui ne soit pas producteur de quantité de CO2 et de gaz à effet de serre, comme c'était le cas jusqu'à présent. Je reviens sur ce sujet parce que la COP 24 a eu lieu en Pologne et que ça s'est mal terminé, parce que ce qu'ils ont fait ou rien, c'est à peu près pareil. Alors évidemment, on doit tous dire c'est bien, ça continue à discuter, mais la vérité, c'est qu'il n'y a rien qui avance. Hein. Et que comme rien n'avance, eh bien, nous pouvons dire que tous ces gens sont coupables du résultat inéluctable qui est en train d'arriver, c'est-à-dire que le dérèglement climatique est commencé et qu'il ne se passera rien qui puisse l'enrayer. Bon, je ne veux pas faire le colporteur de mauvaises nouvelles et donc je vais en rester là, mais je vais vous dire, voilà, on a perdu notre temps, il y a une COP pour rien ou pour à peu près rien. Bon, si cette revue de la semaine vous a intéressé, vous mettez un petit pouce bleu parce que ça nous fait monter dans les tendances et ça nous récompense du travail qu'on fait, Antoine et moi, avec cette revue de la semaine. Et puis, si ça vous découvrez pour la première fois et que vous voulez voir les autres revues de la semaine, ben, vous pouvez vous abonner. C'est gratuit. Voilà, à bientôt.